Tistou 6. Où Tistou courageusement se dénonce. Il y a des silences qui réveillent. Tistou ce matin-là sauta de son lit parce que la grosse sirène ne sonna pas. Il alla à la fenêtre. La fabrique de mirepoix était arrêtée. Les 9 cheminées ne fumaient plus. Tistou courut au jardin. Assis dans sa brouette, Moustache lisait le journal, ce qui lui arrivait rarement. « Ah, te voilà, toi » s'écria-t-il. « Pour du travail bien fait ?» On peut dire que c'est du travail bien fait. Je n'aurais jamais cru que tu arriverais à un si beau résultat. Moustache rayonnait, exultait. Il embrassa Tistou, c'est-à-dire qu'il lui enveloppa la tête de ses moustaches. Puis avec cette légère mélancolie des hommes qui ont fini leur tâche, il ajouta. Je n'ai plus rien à t'apprendre. Tu en sais maintenant aussi long que moi, et tu vas bien plus vite. Venant d'un maître tel que Moustache, le compliment réchauffa le cœur de Tistou. Du côté des écuries, Tistou rencontra Gymnastique. C'est merveilleux, lui glissa Tistou dans sa douce oreille beige. Avec des fleurs, j'ai arrêté une guerre. Le poney n'en parut pas autrement surpris. À propos, répondit-il, une botte de trèfle blanc me ferait assez plaisir. C'est ce que je préfère pour mon petit déjeuner, j'en trouve de moins en moins sur la prairie. Tâche d'y penser à l'occasion. Ces mots plongèrent Tistou dans la stupéfaction. Non parce que le poney parlait, cela il s'en est aperçu depuis longtemps. Mais parce que le poney savait qu'il avait les pouces verts. Heureusement que Gymnastique ne parle jamais à personne d'autre que moi, se dit Tistou. Et il remonta pensif vers la maison. Ce poney-là, décidément, en connaissait long. Dans la maison qui brillait, les choses n'allaient pas comme à l'accoutumée. D'abord, c'était un fait, les vitres brillaient moins. Amélie ne chantait pas devant ses fourneaux « Ninon, Ninon, qu'as-tu fait de ta vie ?» qui était sa chanson préférée. Le valet Carolus ne faisait pas réduire la rampe. Madame Mère avait quitté sa chambre dès 8 heures, comme lorsqu'elle partait en voyage. Elle prenait son café au lait dans la salle à manger. Ou plutôt, son café au lait était devant elle et elle n'y touchait pas. Elle vit à peine Tistou traverser la pièce. Monsieur Pierre-Père n'était pas allé au bureau. Il se trouvait dans le grand salon en compagnie de Monsieur Trounadis. Tous deux marchaient à grands pas de manière désordonnée, si bien que de temps en temps, ils se cognaient à d'autres moments, se tournaient le dos. Leur conversation faisait un bruit d'orage. « Ruine, déshonneur, fermeture, chômage !» criait Monsieur Père. Et Monsieur Trounadis répondait comme l'écho du tonnerre roulant dans les nuages. « Conspiration, sabotage, attentat pacifiste !»« Ah, mes canons, mes beaux canons !» reprenait Monsieur Père. Tistou, sur le seuil de la porte entrouverte, n'osait pas interrompre. « Voilà comment elles sont, ces grandes personnes !» se disait-il. Monsieur Trounadis m'affirmait que tout le monde était contre la guerre, mais que c'était un mal inévitable qu'on ne pouvait rien y faire. J'arrive à empêcher une guerre, il devrait être content, non, il se fâche. Monsieur Père, heurtant au passage l'épaule de Monsieur Trounadis, s'écria hors de lui. Si je tenais le misérable qui allait semer des fleurs dans mes canons. Ah oui, si je le tenais, moi aussi, répondait Monsieur Trounadis. Peut-être qu'il n'y a aucun responsable, les faits des puissances supérieures. Il faut faire une enquête. Haute trahison. Tistou, vous le savez, était un garçon courageux. Il ouvrit la porte, alla jusque sous le luth de cristal au centre du tapis à guirlandes. Et face au portrait de Monsieur Grand-Père, il prit son souffle. « C'est moi qui ai semé les fleurs dans les canons, » dit-il. Et puis il ferma les yeux, attendant la gifle. La gifle n'étant pas arrivée, il rouvrit les paupières. Monsieur Père s'était arrêté dans un coin du salon, et Monsieur Trounadis à l'autre bout. Il regardait Tistou, mais n'avait pas l'air de le voir, à se demander même s'ils avaient entendu et compris. « Il ne me voit pas, » pensait Tistou, qui, pour confirmer son aveu, énuméra ses prouesses comme on donne la solution d'une charade. Les volubilises dans la zone, c'est moi. La prison, c'est moi. Et l'édredon de pervenche pour la petite fille malade, c'est moi. Et le baobab dans la cage au lion, c'est encore moi. Monsieur Père et Monsieur Trounadis continuent à jouer les statues. Les paroles de Tistou, manifestement, ne leur pénétraient pas dans la tête. Vous avez tout juste la figure de gens qui vont vous dire dans une seconde « Cesse donc de raconter des bêtises et laisse les grandes personnes tranquilles. » Ils pensent que je me vante, se dit Tistou. Il faut que je leur prouve la vérité. Il s'approcha du portrait de Monsieur Grand-Père. Sur le canon qui servait d'accoudoir au vénéré fondateur de la manufacture de mirepoix, Tistou posa les 2 pouces et les tint appuyés pendant quelques secondes. La toile eut un léger frisson et l'on vit sortir de la bouche du canon un brin muguet, qui poussa d'abord une feuille, puis l'autre, puis ses clochettes blanches. Et voilà, dit Tistou, j'ai les pouces verts. Il s'attendait à ce que M. Trounadis devienne cramoisi, M. Père tout blanc. Ce fut le contraire qui arriva. M. Père s'écroula dans un fauteuil, le visage pourpre, tandis que M. Trounadis, pâle comme une pomme de terre, se laissait tomber sur le tapis. Tistou reconnut à ce double signe que se faire pousser des fleurs à l'intérieur des canons dérangeait gravement la vie des grandes personnes. Il sortit du salon la joue intacte, ce qui prouve que le courage est toujours récompensé. Ou quelques grandes personnes finissent par renoncer à leurs idées toutes faites. Monsieur Père, ainsi que vous avez pu le constater au cours de ce récit, est un homme de décision rapide. Il lui fallut néanmoins une grande semaine pour réfléchir à la situation et y faire face. Entouré de ses meilleurs ingénieurs, il tint plusieurs conseils de direction, auxquels participa Monsieur Tronadis. Il s'enferma dans son bureau seul et y passa de longues heures la tête entre les mains. Il prit des notes, il les déchira. En somme, la situation se résumait ainsi. Tistou avait les pouces verts, il se servait de ses pouces verts, et en servant de ses pouces verts, il avait arrêté l'usine de Mirepoix. Car bien entendu, les ministres de la guerre et les généraux en chef qui se fournissaient habituellement à Mirepoix avaient aussitôt annulé leurs commandes et retiré leur clientèle. Autant s'adresser à un fleuriste, disait-il. Il y avait une solution, évidemment, qui vint à l'esprit de quelques personnes sans imagination. Enfermer Tistou dans la prison parce qu'il dérangeait l'ordre. Faire savoir dans la presse que le perturbateur avait été mis hors d'état de nuire. Remplacer aux acheteurs les canons feuillus par des armes du modèle courant. Et envoyer une circulaire à tous les généraux en les informant que la manufacture reprenait sa fabrication comme par le passé. Mais M. Tronadis lui-même s'opposa à cette solution. On ne se relève pas facilement d'un coup pareil, dit-il sans crier. La suspicion pour longtemps va peser sur nos produits. Puis enfermer Tistou dans la prison, cela ne servira à rien. Il fera pousser les chaînes dont les racines démoliront les murs et il s'échappera. On ne peut pas s'opposer aux forces de la nature. Monsieur Tronadis avait beaucoup changé. Ses oreilles, depuis le jour de sa chute dans le salon, s'étaient éclaircies. Sa voix s'était calmée. Et puis pourquoi ne pas le dire, Monsieur Tronadis souffrait d'imaginer Tistou en costume de bagnard, tournant en rond dans une prison, même une prison fleurie. La prison fait partie des choses qu'on envisage très tranquillement pour les gens qu'on ne connaît pas. Mais dès qu'il s'agit d'un petit garçon qu'on aime, c'est tout différent. En débit des remontrances, des zéros, de la gifle, Monsieur Tronadis, dès qu'on parla de prison, découvrit qu'il aimait beaucoup Tistou. Qu'il s'était attaché à lui et qu'il supporterait mal d'être privé de le voir. Ainsi sont quelquefois les gens qui crient très fort. D'ailleurs, Monsieur Père se fut de toute manière opposé à l'emprisonnement de Tistou. Monsieur Père était bon, je vous l'ai déjà dit. Il était bon, il était marchand de canons. Première vue, cela ne paraît pas compatible. Il adorait son fils et fabriquait des armes pour rendre orphelins les enfants des autres. Cela se voit plus souvent qu'on ne vous croit. Nous étions parvenus à deux réussites, dit-il à Madame Mère. Nous fabriquions les meilleurs canons et nous avions fait de Tistou un enfant heureux. Il semble que les deux choses ne puissent plus aller ensemble. Madame Mère était douce, belle et gentille, une personne exquise. Elle écoutait toujours avec beaucoup d'intérêt, même d'admiration, les paroles de son mari. Depuis la malheureuse affaire de la guerre des Vasies, elle se sentait un peu coupable, vaguement, sans savoir de quoi. Une mère se croit toujours un peu coupable quand son enfant dérange la vie des grandes personnes et risque d'avoir des ennuis. Que faire, mon ami, que faire ? « Ce qui me préoccupe, c'est autant le sort de Tistou que celui de l'usine, » reprit Monsieur Père. Nous étions fait une idée de l'avenir de cet enfant. Nous pensions qu'il allait me succéder comme j'ai succédé à mon père. Il avait son chemin tout tracé, la fortune, la considération. » « C'était une idée toute faite, » dit Madame Mère. « Eh oui, une idée toute faite est bien commande. Maintenant, il nous faut en faire une autre. Ce petit n'a pas de goût pour l'armurerie, c'est visible. » Sa vocation paraît le porter vers l'horticulture. Monsieur Père se souvint de mots résignés de Monsieur Tronadis. On ne peut rien contre les forces de la nature. Certes, on ne peut rien contre ces forces. Pensait Monsieur Père, mais on peut se servir d'elles. Il se redressa, fit trois pas dans la pièce, se retourna, tira sur les pointes de son gilet. Ma chère épouse, dit-il, voici ma décision. Je suis sûre qu'elle est parfaite, dit Madame Mère, les yeux rosis par les larmes. Car le visage de Monsieur Père en cette minute-là avait vraiment quelque chose d'héroïque, d'émouvant, et ses cheveux brillaient plus que jamais. « Nous allons, déclara-t-il, transformer l'usine de canons en usine à fleurs. » Les grands hommes d'affaires ont le secret de ces revirements soudains, de ces brusques redressements devant l'adversité. On se mit immédiatement au travail. Le succès fut foudroyant. La bataille à coups de violette et de renoncules avait fait couler beaucoup d'encre à travers le monde. L'opinion était préparée. Tous les événements précédents, les mystérieuses floraisons, et jusqu'au nom même de la ville Mirepoix-les-Fleurs, tout concourut au développement de la nouvelle entreprise. Monsieur Tronadis, à qui l'on confiait la publicité, fit tendre au travers des routes d'alentour d'immenses banderoles où l'on pouvait lire « Planter des fleurs qui grandissent en une seule nuit » ou « Les fleurs de mirepoix poussent même sur l'acier. Mais son meilleur slogan fut sans doute « Dites non à la guerre, dites-le avec des fleurs ». Les clients affluèrent, la maison qui brille retrouva sa prospérité. Poutistou fait une dernière découverte. Les histoires ne s'arrêtent jamais où l'on croit. Vous pensiez peut-être que tout était dit. Vous pensiez sans doute connaître bien Tistou. Sachez que l'on ne connaît jamais personne complètement. Nos meilleurs amis nous réservent toujours des surprises. Certes, Tistou ne fait plus mystère de ses pouces verts. Au contraire, on en parlait beaucoup et Tistou était devenu un enfant célèbre. Non seulement à Mirepoix, mais dans le monde entier. L'usine marchait à merveille. Les 9 cheminées étaient couvertes jusqu'au sommet de verdure et de fleurs éclatantes. Les ateliers embaumaient des parfums les plus rares. On fabriquait des tapis de fleurs pour décorer les appartements et des tentures de fleurs pour remplacer au mur la crétonne et le papier peint. Les jardins étaient expédiés par wagons entiers. Monsieur Père avait même reçu une commande de cages gratte-ciel parce que les gens qui vivent dans ces maisons-là étaient souvent, dit-on, pris d'une sorte de fièvre qui les poussait à se jeter par la fenêtre du 130e étage. À vivre si loin de la terre, forcément, ils ne devaient pas se sentir à leurs aises, et l'on pensait que des fleurs leur feraient passer ce vertige. Moustache était devenu grand conseiller des cultures. Tistou ne cessait de perfectionner son art. Maintenant, il inventait des fleurs. Il était parvenu à créer la rose bleue, dont chaque pétale était comme un morceau de ciel, et il avait mis au point 2 nouvelles variétés de soleil. Le soleil levant couleur d'aurore, et le soleil couchant d'un beau pourpre cuivré. Lorsqu'il avait fini, il allait jouer dans le jardin avec la petite fille guérie. Gymnastique ne mangeait plus que du trèfle blanc. « Alors, tu es content maintenant ?» dit un jour le bonnet gymnastique à Tistou. « Oh oui, très content !» répondit Tistou. « Tu ne t'ennuies pas ?»« Pas du tout. » « Tu n'as pas envie de nous quitter? Tu vas rester avec nous ?»« Mais bien sûr, pourquoi cette drôle de question ?»« Une idée. »« Qu'est-ce que tu veux dire? Elle n'est pas finie, mon histoire ?»« on verra, » dit le poney, en se remettant à brouter son trèfle. À quelques matins de là, une nouvelle circula dans la maison qui brille, dont chacun parut fort attristé. Le jardinier Moustache ne s'était pas réveillé. « Moustache a décidé de se reposer pour toujours, » expliqua Madame Mère à Tistou. « Je peux aller le voir dormir ?»« Non, non, tu ne peux plus le voir. Il est parti pour un long, long voyage dont il ne reviendra jamais. » Tistou ne comprenait pas très bien. « On ne voyage pas les yeux fermés, » pensa-t-il. « S'il dort, il aurait pu me dire bonsoir. S'il est parti, il aurait pu me dire au revoir. Ce n'est pas clair tout cela. On me cache quelque chose. » Il alla interroger la cuisinière Amélie. « Ce pauvre Moustache est au ciel. Il est plus heureux que nous à présent, » dit Amélie. « S'il est heureux, pourquoi dire qu'il est pauvre? Et s'il est pauvre, comment peut-il être heureux ?» se demanda Tistou. Carolus avait encore une autre opinion. D'après lui, Moustache était sous terre au cimetière. Tout ceci était plein de contradictions. Sous terre ou au ciel, fallait s'entendre. Le jardinier ne pouvait pas être partout à la fois. Tistou alla trouver Gymnastique. « Je sais, » dit le poney, « Moustache est mort. » Gymnastique disait toujours la vérité. C'est un de ses principes. « Mort !» s'écria Tistou, « mais il n'y a pas eu de guerre !»« Il n'y a pas besoin de guerre pour mourir, » répondit le poney. « La guerre, c'est de la mort en supplément. Moustache est mort parce qu'il était très vieux. Toute vie se termine de cette manière-là. » Tistou eut l'impression que le soleil perdait sa lumière, que la prairie devenait toute noire et que l'air avait mauvais goût à respirer. Ce sont là des signes d'un malaise que les grandes personnes croient être seules à éprouver. Mais que les petites personnes de l'âge de Tistou connaissent elles aussi, qui se nomment le chagrin. Tistou entoura de ses bras le cou du poney et pleura un long moment dans sa crinière. Pleure, Tistou, pleure, disait Gymnastique, c'est nécessaire. Les grandes personnes s'empêchent de pleurer, elles ont tort, parce que leurs larmes se gèlent de l'intérieur, et c'est ce qui leur fait le cœur si dur. Mais Tistou était un étrange enfant, qui refusait de se plier devant le malheur tant qu'il n'y était pas allé mettre les pouces. Il sécha ses larmes et fit un peu d'ordre dans ses idées. « Au ciel ou sous terre ?» se répéta-t-il. Il décida de se rendre au plus près. Le lendemain, après le déjeuner, il sortit du jardin et courut jusqu'au cimetière qui était à flanc de colline. Un joli cimetière, plein d'arbres, pas triste du tout. « On dirait des flammes de nuit qui brûlent pendant le jour, » pensa-t-il en voyant les beaux cyprès noirs. Il aperçut un jardinier de dos qui ratissait une allée. Il eut un instant le fol espoir, mais le jardinier se retourna. C'était un simple jardinier de cimetière, sans ressemblance avec celui que Tistou cherchait. « Pardon, monsieur, savez-vous, et monsieur Moustache ?»« 3e allée à droite, » répondit le jardinier, sans s'arrêter de ratisser. « C'est donc bien ici, » pensa Tistou. Il suivit la direction indiquée, avança entre les tombes, s'arrêta devant la dernière, une tombe toute neuve. Sur la dalle de pierre, on pouvait lire cette inscription, composée par l'instituteur. « Sigy Maître Moustache, jardinier sans tâche, Il fut l'ami des pleurs, des fleurs, passant verser un pleur. Tistou se mit au travail. Moustache ne résistera pas à une belle pivoine, il aura envie de lui parler, songeait Tistou. Il enfonça son pouce droit en terre, attendit quelques instants. La pivoine sortit du sol, monta, s'épanouit, inclina la tête, lourde comme un chou vers l'inscription. Mais la dalle ne bougea pas. Les parfums peut-être, il avait le nez très fin sous ses grosses moustaches, pensa Tistou. Il fit surgir jacinthe, œillets, lilas, mimosa et tubérose. La tombe en fut entourée en quelques minutes comme d'un bosquet, mais il restait une tombe. Et une fleur qu'il n'aurait pas connue, se dit encore Tistou. Même si l'on est très fatigué, la curiosité, ça réveille. Mais la mort se moque des énigmes. Les énigmes, c'est elle qui les pose. Pendant une heure, Tistou déploya la plus vive imagination pour fabriquer une végétation jamais vue. Il inventa ainsi la fleur papillon, à deux pistils en forme d'antenne et deux pétales éployés, qui finissaient au moindre souffle d'air. Ce fut son résultat. Lorsqu'il partit, les mains noires, la tête basse, il laissait derrière lui la plus étonnante tombe qu'on ait jamais vue dans un cimetière, mais Moustache n'avait pas répondu. Tistou traversa la prairie et s'approcha de Gymnastique. « Tu sais, Gymnastique ?»« Oui, je sais, » répondit le poney. « Tu as découvert que la mort est le seul mal que les fleurs n'empêchent pas de passer. » Et comme le poney était un moraliste, il ajouta. « C'est pourquoi les hommes sont bien sots de chercher à se nuire les uns les autres, comme ils le font tout le temps. » Tistou, le nez en l'air, regardait les nuages et réfléchissait. Où l'on apprend enfin qui était Tistou. Elle l'occupait depuis plusieurs jours. Elle requérait tous ses soins, il ne pensait plus qu'à elle. À quoi donc ? À une échelle. Tistou construit une échelle, ça va lui changer les idées, disait-on à Mirepoil. On n'en savait pas davantage. Une échelle pour poser où ? Pour quel usage ? Pourquoi une échelle plutôt qu'une tour ou qu'un pavillon fleuri ? Tistou demeura évasif. J'ai envie de faire une échelle, voilà tout. Il avait choisi l'emplacement bien au centre de la prairie. Une échelle, ordinairement, c'est l'affaire d'un menuisier, mais Tistou ne se servait pas de bois coupé. Il avait commencé par planter ses pouces en terre profondément et aussi éloigné loin de l'autre qu'il le pouvait en écartant les bras. « Il faut que les racines de cette échelle soient solides », expliqua-t-il au poney qui suivait avec intérêt les travaux. Deux arbres s'élevèrent, deux beaux arbres aux rameaux serrés à la taille lancée. En moins d'une semaine, ils mesuraient 30 mètres. Chaque semaine, chaque matin, Tistou, fidèle aux enseignements de Moustache, leur adressait un petit discours. Cette méthode donna les meilleurs résultats. Les deux arbres étaient d'essence rare. Le tronc tenait, par élégance, du peuplier d'Italie, mais avec la dureté de l'if et du buis. La feuille était dentelée comme celle du chêne et les fruits poussaient verticalement en petits cônes comme les pommes de pin. Mais lorsque les arbres eurent dépassé 60 mètres, les feuilles dentelées laissèrent la place à des aiguilles bleutées. Puis apparurent des bourgeons feutrés qui firent dire à Carolus que les arbres étaient d'une espèce qu'on connaissait bien dans son pays et qu'on appelait le sorbier des oiseleurs. « Ça, du sorbier ?» s'exclama la cuisinière Amélie. « N'avez-vous pas vu qu'il pousse maintenant des grappes blanches et parfumées ? Ce sont des acacias, je vous dis. Je m'y connais parce qu'avec la fleur, on fait des beignets. » Mais Amélie, pas plus que Carolus, n'avait raison ni tort. Chacun dans ces arbres-là voyait l'espèce qu'il aimait le plus. C'était des arbres sans nom. Ils eurent bientôt plus de 100 mètres, et les jours de brume, on n'en apercevait plus le sommet. Direz-vous, deux arbres, même très hauts, n'ont jamais suffi à faire une échelle. Ce fut alors qu'apparut la glycine. Une glycine de variété singulière, d'ailleurs, assez fortement croisée du houblon. Elle offrait en outre cette particularité de pousser parfaitement à l'horizontale entre les deux arbres. Elle prenait solidement appui sur l'un des troncs, s'élançait, attrapait l'autre tronc, s'enroulait trois fois autour, faisait un nœud avec sa propre tige autour, montait un peu plus haut, repartait en sens inverse. Ainsi se construisirent les barreaux de l'échelle. L'admirable fut quand cette glycine d'un seul coup se mit à fleurir. Une cataracte mauve semblait couler du ciel. « Si vraiment Moustache est là-haut, comme on s'obstine à me le dire, confia Tistou à Gymnastique, il profitera certainement de cette échelle pour descendre, ne serait-ce qu'un petit moment. » Le poney ne répondit pas. « Je suis trop malheureux de ne pas le voir et de ne pas savoir, » dit Tistou. L'échelle continua à grandir. On la photographia pour les journaux en couleur qui écrivirent à son propos. L'échelle de fleurs de Mirepoil est la 8e merveille du monde. Si l'on avait demandé aux lecteurs quelles étaient les 7 premières, ils auraient été bien embarrassés de leur réponse. Posez donc la question à vos parents pour voir. Mais tout ceci ne fit pas descendre Moustache. J'attends encore 3 matins, décida Tistou, et ensuite je saurai ce qu'il me reste à faire. Le 3e matin arriva. La lune se couchait, le soleil n'était pas levé, les étoiles commençaient à tomber de sommeil, lorsque Tistou sortit de son lit. Il ne faisait plus nuit et pas encore jour. Tistou portait sa longue chemise blanche. « Où sont donc mes pantoufles ?» se demanda-t-il. Il trouva l'une sous le lit, l'autre sous la commode. Il se laissa glisser le long de la rampe, sortit à pas de loup, arriva jusqu'à l'échelle au milieu de la prairie. Gymnastique s'y trouvait aussi. Il avait le pelage triste, l'oreille couchée, la crinière emmêlée. « Comment, tu es déjà debout ?» lui demanda Tissou. « Je ne suis pas rentré à l'écurie hier soir, » répondit le poney. « Je dois même t'avouer que j'ai essayé toute la nuit de ranger le pied de tes armes, mais le bois est trop dur, mes dents n'ont rien pu faire. »« Tu as voulu couper ma belle échelle ?» s'écria Tissou. « Mais pourquoi ? Pour m'empêcher de monter ?»« Oui, » fit le poney. Des gouttes de rosée se mirent à perler dans l'herbe. Et en même temps, Tissou, à la faible lumière de l'aube, vit de grosses larmes couler des yeux du poney. « Mais voyons, Gymnastique, il ne faut pas sangloter si fort, tu vas réveiller tout le monde, » dit Tistou. « Pourquoi t'inquiéter? Tu sais bien que je n'ai pas le vertige. Je ne fais que monter et descendre, je dois être rentré avant que Carolus se lève. » Mais Gymnastique continue à pleurer. « Oh, je savais que ça allait arriver, » répétait-il. « Je tâcherai de te rapporter une petite étoile, » dit Tistou pour le consoler. « Au revoir, Gymnastique. Adieu, » fit le poney. Il regarda Tistou s'élancer sur les barreaux de glycine et suivit des yeux son escalade. Tistou s'élevait régulièrement, léger, agile. Bientôt, sa chemise de nuit ne parut pas plus grande qu'un mouchoir. Gymnastique tendait le cou. Tistou diminuait, devenait à peine plus gros qu'une bique, un petit poids qu'une tête d'épingle et qu'un grain de poussière. Quand il fut invisible, Gymnastique s'éloigna tristement et alla brouter l'herbe de la prairie, bien qu'il n'eût aucune faim. Mais Tistou, sur son échelle, voyait encore la terre. « Tiens, se dit-il, les prairies sont bleues. » Il s'arrêta un instant. À ses hauteurs, tout change. La maison qui brille brillait encore, mais comme un minuscule éclat de diamant. Le vent s'engouffrait sous la chemise de Tistou et la faisait gonfler. « Cramponnons-nous » Il reprit son escalade. Mais au lieu de se compliquer, l'ascension de Tistou devient de plus en plus facile. Le vent s'était apaisé. Tout ce qui avait été bruit ou grondement devenait silence. Le soleil étincelait comme un feu géant, mais sans brûler. La terre n'était plus qu'une ombre, n'était plus rien. Tistou ne sentit pas tout de suite qu'il n'y avait plus d'échelle. Il s'en aperçut seulement lorsqu'il constata qu'il avait perdu ses chères pantoufles et qu'il était pieds nus. Il n'y avait plus d'échelle et pourtant il continuait de monter sans peine, sans fatigue. Une grande aile blanche le frôla. « Comme c'est drôle, » pensa-t-il, « une aile sans oiseau. » Et soudain, il entra dans un énorme nuage blanchâtre, mousseux, soyeux, où l'on ne voyait plus rien. Ce nuage rappelait à Tistou quelque chose. « Mais oui, quelque chose d'aussi blanc, d'aussi doux. » Ce nuage lui rappelait la moustache. Deux moustaches, un mille, en millions de fois plus grand. Tistou était en train d'avancer dans une moustache aussi vaste qu'une forêt. Il entendit alors une voix qui ressemblait à celle de moustache, mais tellement plus forte, plus grave, plus profonde. Il entendit cette voix prononcer. « Ah, te voilà, toi !» Et il disparut à jamais dans ce monde invisible, dont même les gens qui écrivent des histoires ne savent rien. Mais monsieur père, madame mère, monsieur Trounadis, Carolus, Amélie et tous ceux qui aimaient Tistou allaient s'inquiéter, s'affoler, se désespérer. Gymnastique se chargea de les rassurer en leur fournissant l'explication de tant de merveilles. Ce poney-là, je vous l'ai dit, en savait long. Donc à peine d'histoire de vue, Gymnastique s'était mis à manger l'herbe. Pourtant, il n'avait pas faim. Mais il broutait d'une curieuse manière, comme s'il cherchait à faire un dessin. Et à mesure qu'il avançait, à la place de l'herbe ôtée par ses dents, aussitôt poussaient des boutons d'or bien drus et bien épais. Quand il eut fini, il alla se reposer. Lorsque les habitants de la maison qui brille sortirent ce matin-là, en appelant Tistou de tous côtés, ils virent au milieu de la prairie deux petites pantoufles. Et cette phrase écrite en belles fleurs dorées. Tistou était un ange.